It's Morning Edition from NPR News.
Let me teach some people how to eat.
France Inter, le 18-20.
Le bruit du monde, c'est le fracas de ce qui se passe en Ukraine, bien sûr. Caroline Gillet nous envoie deux témoignages forts de ceux qui cherchent à fuir la guerre de parmi des milliers. Une femme qui a réussi à quitter Kiev vers l'ouest du pays, une Française qui souhaite rester dans la capitale. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Fabien Fourel nous emmènera en Afghanistan. Les talibans interdisent aux Afghans de quitter le pays en proie à une crise économique sans précédent. À 18h50, nous irons aux États-Unis retrouver, comme chaque lundi, Sébastien Paour. À 18h55, pardon, la chronique de Jean-Marc Four sur la position pour le moins inconfortable de la Chine sur l'affaire ukrainienne. Le monde est vaste et bien complexe.
Christelle Robière. Un jour dans le monde.
Avant de recevoir notre invité, vous l'entendez, nous sommes sur les routes de l'Exode. Plus de 280 000 personnes fuyant la guerre sont arrivées en Pologne depuis jeudi. Mais c'est de plus en plus compliqué, notamment depuis la ville ukrainienne de Lviv. Les embouteillages sont tellement monstrueux jusqu'en Pologne que certains finissent la route à pied sur 30 km. Reportage à la frontière de notre correspondante Sarah Bakaloglou.
Au poste frontière de Médica, les familles arrivent dans un flux incessant, rythmé par le bruit des valises. Des femmes et des enfants, parfois très jeunes, qui ont le visage très marqué par la fatigue, car des milliers de personnes se pressent à ce poste frontière après un trajet extrêmement difficile. Svetlana, 33 ans, est accompagnée de ses deux fils de 4 ans et 2 ans.
Jeudi, nous avons décidé de préparer nos affaires et partir. Nous avons fui des explosions. Nous sommes partis rapidement. Nous avons été à pied jusqu'au poste frontière. Nous avons marché plus de 30 km. Il n'y avait pas de possibilité d'y aller en voiture, donc nous avons marché. Ça a pris 24 heures pour venir jusqu'ici.
Trouver un chauffeur et une voiture pour se rendre à la frontière est difficile et coûte jusqu'à 5 000 $, confient les réfugiés. Quelques mètres plus loin, Sofia, une jeune femme de 27 ans, essaye de calmer son fils d'un an et 4 mois, son mari ne pouvant pas partir à cause de la mobilisation militaire générale.
C'est terrible, vraiment. Mes amis avec des bébés ont fui. Mon mari est resté là-bas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on a confiance en notre armée. Mon mari savait qu'il ne pourrait pas venir en Pologne, mais il m'a promis qu'on se reverrait très bientôt, et nous le croyons.
Par terre, des vêtements, des couches, des chaussures et des jouets pour enfants sont posés au sol. Des bénévoles offrent des boissons chaudes et de la nourriture. L'élan de solidarité des Polonais et Ukrainiens de l'étranger est saisissant. Certains sont venus d'Allemagne pour proposer un trajet gratuit. Au poste frontière de Médica, on croise aussi de nombreux Ukrainiens qui repartent dans leur pays, comme Ruslan Cholka, 34 ans.
Je suis arrivé il y a une semaine en Pologne pour travailler. Entre-temps, la guerre a éclaté. Je me suis dit, je ne peux pas regarder ça sur YouTube, voir ces images à la télévision. J'arrivais pas à travailler ni à rester en Pologne. Surtout en voyant ma ville se faire bombarder par des roquettes qui survolent ma maison. C'est pour ça qu'il faut que je rentre, pour me comporter comme un homme et aller me battre.
Dans un éclat de rire, il ajoute « J'ai un ami qui boit beaucoup, au moins avec ses bouteilles de vodka, on pourra faire des cocktails Molotov. » Depuis jeudi, ils sont plusieurs milliers d'Ukrainiens en Pologne à avoir pris le chemin du retour.
Reportage de notre correspondante Sarah Bakaloglou. Bonsoir François Hesbourg. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On en parlait tout à l'heure. L'Europe qui fournit des armes aux Ukrainiens, les pays qui gèlent les avoirs des banques russes, l'OTAN qui redevient un vrai rempart, la Suisse qui sort de sa légendaire neutralité, ça c'est nouveau. Est-ce que la géopolitique écrit une nouvelle page de son histoire en ce moment sous nos yeux depuis 5 jours?
Depuis 5 jours, l'Europe a plus changé qu'à n'importe quel autre moment depuis les révolutions de 1989, depuis la chute du mur. Le rythme est absolument extraordinaire et on pourrait même dire à certains égards qu'on est ramené au moment à une forme de rupture avec tout ce qui s'est fait en Europe depuis la fin des années 40, depuis le début et de la construction européenne et la création de l'Allemagne fédérale. Et l'Allemagne n'est plus le même pays.
L'Allemagne, c'est assez fascinant.
C'est absolument fascinant. Le chancelier allemand a utilisé un terme qui a été évidemment très vite repris comme hashtag, oui. qui est le terme de Zeitwende. C'est le changement des temps.
Oui.
C'est très puissant comme image et c'est bien ce qui s'est passé. Et quant à l'Union européenne, elle a découvert non seulement l'unité, mais elle a découvert la puissance. Elle agit désormais comme puissance. Et ce qui est encore plus incroyable, elle a appris à devenir rapide.
Oui, parce qu'on disait toujours que les 27 mettaient un temps infini à prendre des décisions.
En 2014,
sur les sanctions ou sur le fait qu'ils vont fournir des armes à l'Ukraine, c'est allé assez vite. Mais
lors de l'affaire criméenne en 2014, il a fallu 5 mois pour faire le dixième de ce qu'on a fait en 5 jours.
En fait, il y a un paradoxe. Vladimir Poutine voulait démilitariser l'Ukraine et il arme l'Europe.
C'est exactement ça. Il a redonné consistance et une consistance politique, mais maintenant aussi stratégique et géopolitique à l'Europe, à la fois dans son incarnation politique qu'est l'Union européenne et à travers son alliance avec les États-Unis qu'est l'OTAN. Les deux ensemble.
Ça veut dire que l'Europe est en train de prendre une place qu'elle aurait dû occuper plus tôt?
C'est pas une question d'occupation de place, c'est une question de transformation de soi. Mmh. Elle a muté. C'est une mutation. C'est un petit peu comme le papillon qui sort de la chrysalide. On est dans la chrysalide, c'est pas un papillon, c'est autre chose. Et puis, en l'espace de quelques heures, on voit le papillon qui s'envole avec ses couleurs, sa marée. Et bien là, l'Europe, elle est en train de s'envoler comme le papillon de la fameuse chrysalide.
Sur les armes, donc, les 27 vont faciliter la délivrance d'armes létales en débloquant 450 millions d'euros pour l'envoi d'une assistance militaire. Le sujet, dit l'Élysée, c'est d'augmenter le coût de la guerre de telle manière que Vladimir Poutine soit contraint à revoir ses plans. Est-ce que vous y croyez?
Si vous m'aviez posé la question il y a 3 jours, j'aurais dit non, franchement pas. Là, je commence à avoir de l'espoir.
C'est-à-dire?
J'ai toujours été favorable à ce qu'on livre des armes. J'avais même écrit un papier dans Le Monde en 2014 sur le sujet. Donc, je ne suis pas suspect de ne pas avoir voulu le faire avant. Mais, très honnêtement, je ne pensais pas que ça pourrait changer le cours des choses.
Mm-hmm.
Là, on apprend que les Russes avait très mal organisé leur opération militaire. Il s'est passé encore dans cette journée, chaque journée est folle, à tout à l'heure, est sorti un papier publié par l'agence de presse russe officielle, RIA Novosti.
Mmh.
Elle a lâché par erreur un papier qui avait été fait pour être publié à 2 jours après le début des opérations militaires en Ukraine, papier qui était basé sur le principe que les opérations étaient terminées, Kiev était tombé. Autrement dit, les Russes ont cru à leur propre propagande.
Ont cru à la guerre éclair.
Non, c'est pas ça. Parce que la guerre éclair, elle a beau aller vite, les Allemands, ils n'ont pas conquis la France en 2 jours chrono.
Hein. Oui.
Ils ont quand même mis 42 jours. C'est pas beaucoup, mais c'était quand même 42.
Oui, mais au moins Kiev.
Non, c'était symbolique. Enfin, à peine. Et ils ont pensé qu'il suffisait d'envoyer une escouade, littéralement, sur l'aéroport voisin de Kiev, pour que tout se termine dans les 48 heures. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru ça? Parce que l'Ukraine, ça n'existe pas. Comme nous l'a expliqué en long et en large M. Poutine, l'Ukraine, c'est pas un État, c'est pas un peuple, c'est pas une nation, c'est même pas une histoire.
Mm-hmm.
Parce que son histoire, c'est l'histoire de la Russie.
Mm-hmm.
Or, ce texte, assez long, décrit ce qu'allait devenir l'Ukraine dans la nouvelle configuration, rapatriée dans le giron de la Russie.
Mm-hmm.
Il n'y avait pas d'avenir politique pour l'Ukraine, on s'en doutait un petit peu, mais là, c'est entre guillemets, c'est officiel, et c'est un petit peu comme les Allemands qui avaient distribué la médaille avec la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe dessus pour la chute de Paris en août 14. Là, ils ont commis l'équivalent journalistique, Et c'est très, très instructif. J'invite les gens à aller sur Internet pour retrouver ce passionnant document. Donc l'armée russe...
Qui n'aurait pas dû arriver jusqu'à nous.
Non, absolument, mais grâce à eux, on l'a eu.
Mais alors là, on entend aujourd'hui que les bombardements s'intensifient à Kharkiv. Vous avez entendu le reportage d'Éric Biegala tout à l'heure. On tire au hasard. Quelle est donc la stratégie de Poutine en ce moment?
La stratégie de Poutine, c'est qu'il va falloir qu'il fasse, entre guillemets, du point de vue, je parle du point de vue militaire, bien entendu, sérieusement la guerre. Il ne s'était pas organisé pour faire la guerre éclair. La guerre éclair, ça exige beaucoup de préparation. Mmh. Ça exige des moyens bien, bien orchestrés. Et là, il va mettre le turbo. Et mettre le turbo, ça veut dire quoi ? Taper sur tout ce qui bouge et même sur tout ce qui ne bouge pas. Et ça va être beaucoup plus dur. Et ce qui se passe à Kharkiv, ils utilisent les mêmes types d'armes que celles qui ont réduit en ruine Beyrouth pendant la guerre civile du Liban. Ça donne une idée. Les civils vont, hélas, vraiment souffrir. Jusqu'à présent, c'était, si on ose dire, les hors-d'œuvre, les malheureux que l'on voit à la frontière polonaise. Il y en aura malheureusement beaucoup plus, et beaucoup d'entre eux seront en mauvais état, alors que ceux qui arrivent jusqu'à présent sont fatigués mais valides.
Mmh. On est quand même aussi tous assez sidérés par ces images de résistance d'un peuple qui prend les armes, qui fabrique des cocktails Molotov, qui creuse des tranchées, par des Ukrainiens installés en Pologne, qui rentrent pour se battre, sans compter la détermination du président Zelensky, présenté comme un néo-nazi drogué, quand même, par la Russie.
Néo-nazi drogué par les uns, un incompétent par d'autres. Autre. Le type, il se débrouille bien.
Et ça ressemble à une guérilla, tout ça?
Non, ça ne ressemble pas à une guérilla. Ce ne sont pas des gens désespérés qui ont été dispersés par des forces supérieures en nombre. Ce sont des gens qui ont appris à s'organiser pour le combat et qui se battent remarquablement.
Il y a des gens qui prennent les armes aujourd'hui, qui n'ont jamais tenu un fusil entre leurs mains.
Oui,
quand même.
Mais ils apprennent. Et ils se battent, j'allais dire, non pas comme le guérillero qui fait un petit coup de feu et puis qui repart et est obligé de se cacher en attendant que l'ennemi reparte dans l'autre sens. Non, là, les Russes sont en train d'être condamnés, très vraisemblablement, à une guerre de siège de Kiev. Ça, en soi, serait une victoire, pas simplement morale, des Ukrainiens, parce qu'une guerre de siège en milieu urbain, c'est le défenseur qui a l'avantage, même si l'attaquant utilise les armes les plus épouvantables. C'est l'histoire entre... Je n'allais pas dire, ce n'est pas Sarajevo, le terrain n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, mais c'est quelque chose de très différent que la prise de Paris le 14 juin 1940. Mmh, mmh.
Depuis le début de l'offensive en Ukraine jeudi dernier, à chaque fois que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, le président russe hausse le ton. Il annonce d'abord une offensive plus large, puis met en alerte la force de dissuasion russe. Ce n'est pas la première fois qu'il fait allusion au feu nucléaire. Est-ce que ce n'est pas surtout un aveu de faiblesse?
Écoutez, les aveux de faiblesse sous forme de menaces de recours à l'arme nucléaire, je préférerais qu'on les évite. Mmh. Je préférerais un aveu de force où on ne brandit pas ce type de perspective.
Et malheureusement, mais pour vous, c'est une menace réelle ou pas?
Écoutez, souvenez-vous, il y a longtemps, il y a 3 jours, 4 jours, combien de gens étaient prêts à dire « Monsieur Poutine va vraiment envahir toute l'Ukraine ?» Je pense que notre truc va beaucoup. Mmh. La plupart, beaucoup d'observateurs disaient c'est un coup de bluff, ou il va faire un truc limité, ou il va même tout simplement canner. Et il ne s'est rien passé de tout ça. Il a mis le turbo, il a fait exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire quand il rencontre une difficulté, il élargit le champ de la lutte, si je puis paraphraser, mais c'est Welbeck.
L'extension du domaine de la lutte.
Absolument. Et là, avec la menace nucléaire, car c'est une menace, il monte les niveaux de la tension d'un cran. Et vous aurez noté qu'il y a eu très peu, pour l'instant, de réactions formelles des différentes capitales européennes et américaines. La consultation bat son plein. On discute beaucoup, et c'est bien, faux. Alors là, pour le coup, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic. Mmh. Parce que soit on considère que c'est un coup de bluff, et il vaut mieux qu'on ne se trompe pas, soit on considère que c'est quelque chose de sérieux, et on risque d'être amené dans un processus d'escalade.
Il y a la Biélorussie quand même qui est assez inquiétant dans cette histoire, parce qu'il y a un référendum qui a été organisé hier pour modifier la constitution et faire disparaître l'obligation pour ce pays de rester une zone sans nucléaire. En clair, Poutine pourrait y acheminer des armes nucléaires. Est-ce que c'est un chemin très dangereux, disait ce matin l'Européen Josep Borrell.
Bien sûr que c'est dangereux, mais très très honnêtement. Que l'arme nucléaire vienne de Russie ou qu'elle vienne de Biélorussie, pour celui qui la reçoit, c'est quand même assez équilatéral. Hein. Les Russes ont déjà exercé le transfert de missiles Iskander, qui sont tantôt conventionnels, tantôt nucléaires, dans l'enclave dite de Kaliningrad, l'ancien Königsberg, la Prusse orientale, qui est à 300 km de Berlin et 200 km de Varsovie. C'est plus près de nous que la Biélorussie. Donc évidemment, je ne me réjouis pas des folies de M. Loukachenko, mais très honnêtement, dans le tableau général, c'est probablement en 29e position sur 30. Hein.
Alors, lors de son entretien avec Emmanuel Macron cet après-midi, Vladimir Poutine a exigé la reconnaissance de la Crimée, la dénazification du gouvernement ukrainien et un statut neutre pour Kiev. Ça vous fait sourire.
Oui, et la démilitarisation de l'Ukraine aussi.
Oui.
Donc les quatre choses. Donc, autrement dit, il n'a pas bougé d'un poil par rapport aux positions qu'il a énoncées lors de son entretien et du coup de fil subséquent avec M. Macron.
Il s'entête.
Encore une fois, il ne bouge pas d'un poil. Et ce qui est une des raisons où il faut le prendre au sérieux lorsqu'il effectue des limaces. La même chose vaut pour les projets de traité que M. Poutine a tenté de nous faire avaler au mois de décembre dernier, qui reviennent à ramener la situation stratégique en Europe à ce qu'elle était au moment de la fin de la guerre froide. C'est évidemment pas un projet sympathique, mais là non plus, il n'a pas bougé d'un iota. Et comme c'est un homme qui généralement annonce sa vision, son objectif, et fait en général ce qu'il croit devoir faire pour y arriver, c'est un homme excessivement dangereux.
Mais qu'est-ce qui pourrait le faire bouger? La crise économique, le gel des avoirs russes provoque une chute du rouble de 30%, la Banque centrale a porté son taux d'intérêt à 20%, le Kremlin commence à reconnaître à demi-mot que la réalité économique est en train de changer. Ça pourrait le faire bouger, parce que ça change la donne en politique intérieure.
Si vous me demandez si ces choses sont importantes et qu'elles affecteront la capacité de la Russie à se battre dans la durée, c'est exact. Si vous me demandez ce qu'en fera Vladimir Poutine, d'abord je ne le sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, mais dans la mesure où il y répond, parce qu'il y répond dans une certaine mesure à votre question, il a dit « je n'ai absolument pas changé mes objectifs ». Ce que vous venez de dire du coup de fil entre M. Macron et M. Poutine, c'est la même chose que ce qu'il exigeait il y a 2 semaines, ce qu'il exigeait il y a 1 mois, ce qu'il exigeait il y a 2 mois, et ce qu'il décrivait au mois de juillet dernier, lorsque il a fait un long papier qu'il présente comme étant de lui, donc c'est vraiment, il considère que c'est sa pensée. Vous le trouverez sur son site internet, kremlin.ru. C'est très très instructif. Et les gens qui sont surpris par Poutine, ils doivent être surpris par sa dangerosité, mais ils ne doivent pas considérer qu'il est incohérent. Il fait exactement ce qu'il devrait faire
pour
atteindre des objectifs qui, eux, sont totalement déraisonnables et dangereux.
Mais il ne lâche rien. Est-ce que l'Europe doit intégrer l'Ukraine le plus vite possible?
Moi, je suis pour la mesure symbolique qui a été prise. C'est un très beau symbole. Je veux dire, la photo où on voit Zelensky en train de signer la demande d'adhésion en plein combat, je trouve ça magnifique. C'est une image de l'Europe qui est très très loin des couloirs technocratiques de Bruxelles. Bien entendu, une procédure d'adhésion, c'est une affaire longue, une affaire compliquée, mais ils sont sur le chemin. Ils sont sur le chemin, ils ont pris le premier pas.
Une dernière question rapidement. Est-ce que vous pensez que, quelle que soit l'issue de ce conflit, le monde en sortira changé?
Le monde est déjà changé. Le monde est déjà changé. La Russie, sous le président Poutine, de son vivant, ne retrouvera jamais une forme de relation diplomatique et politique normale avec l'ensemble des États occidentaux, même la Hongrie de M. Orban, le bon ami de certains de nos candidats à la présidence de la République, est maintenant en train d'expliquer pourquoi il est l'adversaire le plus déterminé contre M. Poutine.
Rien ne sera comme avant. Merci François Bourg d'avoir été l'invité de ce 18-20 sur Inter. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique et votre dernier ouvrage, Retour de la guerre, publié en octobre de l'année dernière, est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà.
Le 18-20, Christelle Robière sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde de Caroline Gillet. Plus de 500 000 personnes ont fui la guerre d'après le Haut Commissariat aux réfugiés. Beaucoup tentent encore de partir. À Kiev, deux récits à la première personne. Une femme qui part, une autre qui reste. Jusqu'à 19h, comme d'habitude, sous les radars avec Fabien Fourel, l'Amérique de Biden avec Sébastien Paour et la chronique de Jean-Marc Four. À tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini. Nous partons en Californie avec le groupe Gabriels, Blame.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing light. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Le bruit du monde, il tourne au fracas depuis une semaine. Caroline Gillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous emmenez en Ukraine, donc écoutez ceux dont la vie a basculé depuis mercredi. Vous leur avez proposé de s'enregistrer avec leur téléphone portable et d'envoyer leur récit. Vous en avez choisi deux.
Oui, qu'on entendait déjà ici samedi soir et qui continuent d'envoyer des notes vocales depuis. Voilà d'abord Jeanne Doussa, française qui est en Ukraine depuis 5 ans, mariée à un Syrien sans papier, qui ne peut donc pas quitter le territoire. Vous allez entendre ici des sons qu'elle a envoyés depuis leur appartement à Kiev, entre samedi 26 et ce matin.
C'est difficile de dire ce qui se passe exactement dans la rue, parce que moi je ne suis pas sortie aujourd'hui plus loin que les quelques marches de mon immeuble, comme ce qui est demandé. Il y a énormément de queues dans les magasins, donc on est devant les informations et on nous a demandé de tous mettre dans notre téléphone un numéro d'urgence au cas où on aperçoit par les fenêtres des personnes isolées autour des bâtiments la nuit qui pourraient essayer, comme les images qu'on a déjà vues tourner, hein, mais de couper le gaz, de couper l'électricité pour essayer de, de déstabiliser les Ukrainiens et de nous mettre surtout dans le noir, puisque apparemment on attendrait potentiellement des parachutistes sur Kiev cette nuit. Donc ils vont essayer de couper l'électricité et les réseaux de communication. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais ça c'est... C'était une bombe qui est tombée, mais relativement loin. Ben, on commence à s'habituer parce que je suis restée assise tranquillement sur mon lit. On a passé une bonne nuit et on n'a pas eu besoin de descendre au sous-sol. Ce que j'ai enregistré, c'est mon amie qui vit avec moi, qui a décidé d'essayer d'apprendre l'hymne ukrainien au piano. Donc voilà. Mon ami est en train de faire la vaisselle. J'ai fini de ranger la cuisine et les provisions qui ont été faites ce matin au supermarché. Ça y est, c'est terminé, il n'y a plus tout. Hein. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de viande, mais on a largement de quoi manger. On a acheté de la farine, on va se faire notre pain. Hein. On a du temps, ça va nous occuper. On a aussi acheté des aliments qui n'ont pas besoin de se cuire en mode petit pique-nique au cas où on perd l'électricité sur une journée ou deux. Sur les réseaux sociaux ici, on voit beaucoup de gens qui préparent des cocktails Molotov, notamment dans notre quartier. Les gens sont dehors, se passent des bouteilles et préparent des cocktails. Un peu dans tous les quartiers de Kiev, à se préparer pour la prochaine nuit.
Alors depuis ces derniers messages, il y a eu les annonces du ministère des Affaires étrangères avec Jean-Yves Le Drian. Les Français sont donc encouragés à quitter Kiev par la route, mais la France ne pourra pas leur apporter d'assistance. Et Jeanne n'a pas de voiture, c'est très dur. Elle cherche donc en ce moment même un train pour quitter la capitale.
Oui, quitter Kiev, c'est ce qu'a fait Olga il y a quelques jours.
Oui, Olga Apenko avait pris la route vendredi avec son frère, sa femme, son fils, son neveu, un chat, un écureuil et 6 valises. Ils ont passé 2 jours entiers sur les routes encombrées. Ils ont dormi la nuit dans un hôtel. Ils tentent de rejoindre leurs parents qui les attendent à l'ouest de l'Ukraine.
Il y en aura, je ne sais pas combien d'heures pour arriver chez mes parents à Ivano-Frankivsk. Peut-être on ne peut pas y arriver aujourd'hui parce qu'hier on a fait 120 km en 16 heures. Bonjour Caroline, on va très bien, on a bien dormi.
Comme hier, les enfants jouent dans la voiture, ça va plus ou moins bien. On a trouvé des routes qui sont moins... on va un peu plus vite.
Ce que tu entends, c'est notre retour chez mes parents. C'est ma maman qui était en stress depuis que la guerre s'est commencée. Elle regardait les nouvelles et elle ne pouvait rien faire. Elle pleure comme tout parce que tous ses enfants et petits-enfants sont finalement ensemble avec elle.
Merci à Jeanne et Olga pour leur témoignage si émouvant. Et merci à vous, Caroline
merci.
Gillet. On vous retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres notes vocales. À demain.
Merci.
Le bruit du monde ne vient pas que d'Ukraine. Sous les radars ce soir avec Fabien Fourel. Rebonsoir, Fabien. Nous partons d'abord en Afghanistan. Pour survivre à la famine, on vend des reins, une pratique ultime qui se banalise.
Et oui, alors que les talibans annoncent aujourd'hui qu'ils n'acceptent plus le départ d'Afghans vers l'étranger, profitant de la focalisation du monde sur l'Ukraine, ceux qui restent subissent un pays en proie à la pire crise économique de son histoire selon l'ONU. Le chômage explose et plus de la moitié des 40 millions d'Afghans sont confrontés à des niveaux de faim extrêmes. Alors pour pouvoir se nourrir, certains en viennent à vendre leur fille, d'autres carrément un organe. Cette femme qui parle, c'est Aziza. Elle a pris sa décision. Elle va vendre son rein. Nous n'avons rien. Mon mari ne peut ramener que 50 afghanis par jour. Nous grelottons dans le froid du matin au soir. Mes enfants attendent leur père pour savoir s'ils auront à manger. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre mon enfant ou mon rein. Alors combien vaut un rein? Rhin. Il peut être acheté 300 000 Afghanis, c'est-à-dire 2 900 dollars, indiquent nos confrères du Guardian. L'Iran, notamment, est un client. Officiellement, ces 5 dernières années, 250 transplantations de reins ont eu lieu dans la province d'Herat. Mais le chiffre réel pourrait être bien supérieur, au point qu'une ville voisine porte désormais le triste nom de ville du Rhin.
Direction maintenant Hong Kong, qui réfléchit à un nouveau confinement strict.
L'épidémie repart en flèche dans la ville chinoise qui pratiquait jadis le zéro Covid. 193 000 cas, 636 morts ces deux derniers mois. Depuis quelques jours, les cadavres s'accumulent dans les hôpitaux faute de place dans les morgues. Et ce matin, la ministre de la Santé affirmait possible un confinement strict. D'ici là, elle appelle à réduire les mouvements et l'isolement des malades est aussi très strict. Une vidéo de nos confrères de CNN fait le tour du web. On voit un couple en visio avec leur bébé de 11 mois. La petite Ava est isolée dans un hôpital, séparée de ses parents parce que positif Covid. Darling, reste calme, bébé, nous t'aimons, nous allons venir te chercher, chérie, nous le ferons, dit la maman, avant de s'effondrer. Je ne peux pas le supporter. Et son mari de reprendre l'appareil et de demander à l'infirmière de rassurer la petite fille. Comme ici, les hôpitaux sont surchargés de malades isolés, de malades qui déclinent et même de morts, donc, à tel point que tout l'enjeu est aussi de construire des hôpitaux de fortune. Hong Kong dans le chaos qui fait face à un paradoxe. Les réserves de vaccins sont très importantes, mais le taux de vaccination, notamment des plus de 70 ans, est très faible dans la ville chinoise.
Et on termine ce soir ce petit tour du monde par l'Argentine, où une course contre la montre est lancée pour sauver des animaux.
Et oui, le pays en proie aux flammes depuis des mois voit sur les télés locales des images filmées dans le parc d'Ibera par des pompiers ou des bénévoles. Elles sont devenues virales dans le pays. On y voit un fourmilier à collier, aux pattes et museaux brûlés, abreuvé des mains d'un secouriste, ou encore des alligators qui fuient à leur allure si lente et si singulière, des singes carbonisés, un drame national pour ce pays qui se mobilise. Nous sommes allés chercher les poussins de nuit, témoigne cette biologiste. Nous les avons mis dans un sac à dos et nous les avons sortis par l'estuaire. Nous n'avons pas pu capturer les parents, c'était impossible de les capturer. Mais cela aurait été une erreur de laisser les poussins là parce que les parents seraient restés dans le nid pour les protéger. Même si le feu arrivait, ils seraient restés là. Aucun recensement n'existe à ce jour des dégâts, des incendies sur la faune du parc Ibera. Seule certitude, avant les flammes, 600 espèces y coexistaient. Poissons, reptiles, mammifères, oiseaux. Un drame qui se joue en ce moment, au moment où on se parle, alors que le GIEC tire la sonnette d'alarme sur la multiplication annoncée de ces événements. On vous en aurait sûrement parlé davantage, mais l'Ukraine occupe ce soir évidemment toute l'attention internationale.
Merci Fabien, à demain.
Merci, à demain.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique de Biden, comme tous les lundis, avec notre correspondant à Washington, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Christelle.
On a vu des manifestations monstres en Europe ce week-end à Berlin, Prague, Amsterdam. 250 000 personnes ont manifesté cet après-midi encore à Cologne pour la paix. Aux États-Unis, Sébastien, pas de marée humaine, mais tout de même.
Oui, il y a une image qui résume l'implication des Américains. C'est cet homme en costume de Spider-Man. C'était devant les grilles de la Maison-Blanche vendredi dernier. Il portait une pancarte qui demandait à Joe Biden « Arrêtez Poutine ou je le ferai ». Cet homme déguisé en super-héros n'est pas tout seul, évidemment, à se déplacer pour soutenir les Ukrainiens et dénoncer la guerre du président russe. Il y a eu tout le week-end des manifestations dans plusieurs villes du pays, ici aux États-Unis, à Washington sur Lafayette Square, près de la Maison-Blanche, donc, mais aussi à Chicago, à Boston, Houston, Philadelphie, Los Angeles, des Américains qui viennent parfois avec leurs enfants pour protester contre la guerre, avec des drapeaux ukrainiens évidemment. À Chicago, c'était sur les marches de l'église catholique ukrainienne Saint-Volodymyr et Sainte-Ola. C'est l'une des 5 églises qui se trouvent dans le village ukrainien de la ville. Le gouverneur de l'Illinois, le maire, avait fait le déplacement. Il y avait aussi beaucoup d'Ukrainiens installés aux États-Unis qui sont inquiets pour leurs familles, qui se trouvent encore à Kiev ou à Lviv, par exemple. Ils ont crié gloire à l'Ukraine, en ukrainien évidemment, ou bien sauver l'Ukraine.
Et la résidence de l'ambassadeur de France dans la capitale s'est mise aux couleurs jaune et bleu.
Ouais, aussi, couleur qu'on a vu aussi à plusieurs endroits à New York, notamment sur le One World Trade Center. C'est la tour qui a remplacé les tours jumelles.
Les Américains manifestent donc contre Poutine et pour l'Ukraine. Qu'en dit la classe politique américaine ?
Alors elle est, comme sur beaucoup de sujets divisés, les démocrates saluent les choix de Biden, ne pas engager de troupes pour combattre la Russie en Ukraine, et le choix des sanctions, la dernière en date, c'est aujourd'hui l'interdiction des transactions avec la banque centrale russe. Il en reparlera sûrement, Joe Biden, demain dans son premier discours sur l'état de l'Union. Certains républicains sont sur sa ligne, comme le candidat de 2012 à la Maison-Blanche, Mitt Romney, mais la droite plus dure tire sur l'administration Biden et elle suggère qu'on laisse Poutine faire. Donald Trump l'a redit à la convention annuelle des conservateurs samedi en Floride. Le président russe est quelqu'un d'intelligent et d'avisé, je ferme les guillemets, et un tel conflit ne serait pas arrivé, dit Trump, s'il avait été lui à la Maison-Blanche. En tout cas, c'est à cause de la présidentielle truquée, il n'en démord pas. Ses relais, comme le présentateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, en rajoutent. Ils disent que manifestement l'objectif principal de Biden en matière de politique étrangère était d'empêcher l'invasion de l'Ukraine et qu'il a échoué. Et ce matin, c'est un autre proche de l'ancien président, Douglas McGregor, ancien haut fonctionnaire du département de la Défense, qui était lui aussi sur Fox News, pour dire qu'il faut lever toutes les sanctions, arrêter de diaboliser Poutine, parce que l'Ukraine n'est pas, selon lui, le pays que les médias traditionnels décrivent.
Ce n'est pas la démocratie libérale, l'exemple brillant que tout le monde dit qu'elle est. Loin de là, M. Zelensky a emprisonné des journalistes et son opposition politique. Je pense que nous devons rester en dehors de cela. Et nous devrions cesser d'envoyer des armes et d'encourager les Ukrainiens à mourir dans ce qui est un effort sans espoir. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre avec les Russes pour quelque chose dont ils parlent depuis des années. Et plus important encore, la population de cette région est la même que la leur.
Voilà, pour lui, les Ukrainiens sont donc des Russes, tout simplement. Et Poutine, un chef d'État qui doit pouvoir conduire la politique qu'il entend. Le mois dernier, un sondage YouGov révélait que 62% des républicains et des indépendants de sensibilité républicaine considèrent Poutine comme un leader plus fort que Joe Biden.
Certains ont aussi décidé aux États-Unis de boycotter les produits russes.
Et notamment la vodka. Plusieurs gouverneurs ont demandé aux magasins qui vendent de l'alcool de retirer des rayons depuis jeudi dernier les produits fabriqués en Russie ou qui font référence à la Russie. Alors c'est le cas dans l'Utah, dans le New Hampshire, dans l'Ohio notamment. Message entendu par ce propriétaire de bar de Cleveland.
We dump the vodka because...
Il dit qu'il a acheté la vodka russe comme il mettrait dehors un client qui ne s'entendrait pas avec les autres. Il a conscience que ces vodkas au nom qui sonne russe sont parfois fabriqués ici même aux États-Unis, mais que c'est son acte de résistance à lui. Le marché de la vodka, c'est 7 milliards de dollars de ventes par an ici aux États-Unis. Le fait est que beaucoup de vodkas aux origines russes sont désormais distillés dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Moins de 1% en fait de la vodka qui est consommée en Amérique est fabriquée en Russie. Le boycott est donc surtout symbolique.
Oui, mais tout de même, le coca plutôt que la vodka. Merci c'est Sébastien.
Christelle Rebière, le 18-20.
Le monde d'après avec vous, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, avec le micro ouvert, c'est mieux.
Bonsoir.
Voilà. Alors que les combats continuent en Ukraine, vous intéressez ce soir, Jean-Marc, à l'attitude d'un géant plutôt discret hein, sur le sujet depuis le début de cette guerre. Ce géant, c'est la Chine. Pékin est très lié à Moscou, mais Pékin est embarrassé par cette invasion russe. D'où cette discrétion, c'est votre monde d'après.
Oui, souvenez-vous, il y a encore 3 semaines, à l'ouverture des Jeux Olympiques, ils étaient bras dessous, Vladimir Poutine et Xi Jinping affichant, je cite, « une amitié sans limite ». Les deux dirigeants, qui ont d'ailleurs le même âge à 8 mois près, hein, ont multiplié les signes de rapprochement. Oui, c'est ça. Ils ont multiplié ces dernières années les signes de rapprochement. Et vas-y, justement, tiens, qu'on boit une petite vodka ensemble, qu'on va rendre visite aux pandas, etc., qu'on se balade sur une patinoire de hockey. Moscou pouvait donc espérer une forme de soutien de Pékin après le lancement de l'opération Ukraine. Ben, c'est raté sur ce coup. La Chine aurait plutôt envie de prendre la relève de la Suisse, puisqu'elle a cessé d'être neutre. J'en veux pour preuve cette abstention de Pékin lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur de la résolution déplorant l'invasion russe. Alors certes, ce n'était qu'une abstention. La Chine continue de trouver légitimes les inquiétudes de Moscou pour sa sécurité, de considérer Washington comme premier responsable de la crise et de critiquer les sanctions contre la Russie. Mais enfin, le fait est là, elle ne soutient pas Moscou. Et cette abstention est en partie la conséquence d'une discussion fin de semaine dernière entre le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Beaune, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Aujourd'hui, le quotidien officiel chinois Global Times est très clair. Il explique combien Pékin entend rester neutre. Neutre pour pouvoir jouer un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou. L'Ukraine, poursuit le journal, doit être un pont entre l'Est et l'Ouest, pas une frontière. Pékin n'a aucune intention d'avaliser une guerre sanglante, a fortiori avec de nombreuses victimes civiles.
Et comment l'expliquez-vous ? Pourquoi ce refus de soutenir Moscou ?
Il faut comprendre que la diplomatie chinoise possède une pierre angulaire, c'est le respect de la souveraineté des pays, des États. Ouais. L'invasion d'un pays étranger souverain, si vous voulez, c'est une ligne rouge pour Pékin. Et la Chine a depuis longtemps reconnu l'Ukraine comme un pays indépendant. Elle en est le premier partenaire commercial, elle y finance de nombreuses infrastructures. Il y a même un pacte de sécurité avec Kiev. Mais oui. Pourquoi ce respect du concept de souveraineté ? D'abord parce que ça sert la Chine à l'étranger. Ça lui donne une image positive dans de nombreux pays en développement, autrefois colonisés, notamment en Afrique. Et puis ça lui sert surtout à l'intérieur. Ça permet à Pékin de dire aux Occidentaux ce que nous faisons au Tibet, au Xinjiang, ça ne regarde que nous, c'est notre souveraineté. Mmh. Et ça lui permet aussi, évidemment, de légitimer sa revendication de reprendre le contrôle de l'île de Taïwan, puisqu'elle considère que ça fait partie de la Chine. Alors vous allez me dire, oui, bah du coup, cette invasion russe en Ukraine, ça peut donner des idées à Pékin, l'envie aussi d'envahir Taïwan. Oui, sur le papier. Seulement, voilà, l'offensive russe a déclenché un processus en chaîne qui est ennuyeux pour Pékin, une réaction occidentale virulente. Et l'affirmation de l'Europe comme une puissance ces dernières heures sur le sujet ukrainien laisse les États-Unis, par effet en chaîne toujours, un peu plus disponibles pour se porter garant de la défense de Taïwan. C'est fâcheux.
Et puis, il y a l'économie quand même. La Chine peut espérer tirer les marrons du feu, non ?
Oui. Et non. D'un côté, évidemment, les sanctions européennes contre Moscou poussent la Russie dans les bras de Pékin. Moscou va chercher à contourner ses problèmes de financement en se tournant vers la Banque Asiatique d'Investissement. La Chine a déjà accepté d'accroître ses importations de blé russe. Et il y a 3 semaines, Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient conclu une quinzaine de contrats pour augmenter les livraisons de gaz et de pétrole russe. 117 milliards de contrats. La Chine, aujourd'hui, c'est à peu près 13% des exportations russes. Mais il y a l'autre côté de la balance, et ça c'est plus lourd pour Pékin. La Chine a autrement plus besoin commercialement de ménager l'Europe et les États-Unis. Ça c'est vital pour son économie, qui est très dépendante des exportations. Donc Pékin voit forcément d'un mauvais œil une déstabilisation économique mondiale, une flambée des cours des matières premières, des turbulences sur les marchés financiers. On se résume. Comme toujours, la Chine regarde au loin, elle adopte la stratégie du temps long, elle reste persuadée de l'emporter à la fin. Mais à court terme, cette guerre en Ukraine ne lui plaît pas.
L'indispensable Jean-Marc Four, que l'on va garder avec nous ce soir pour décrypter ce qui se joue en Ukraine et ce qui se joue pour Vladimir Poutine. Vous pourrez dialoguer avec Jean-Marc, avec nos invités dans le téléphone sonne. Le 19-20 continue avec le journal d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous. Surtout, ne changez rien.